chacune et à chacun, c'est un petit peu impressionnant d'être devant cette immense assemblée. Mais nous allons entrer d'emblée dans le vif de notre réflexion, conduire à la prière chrétienne. Vous avez chacun reçu, à l'endroit où vous êtes assis, un petit papier rose ou d'une autre couleur. C'est pour que vous puissiez, pendant 2 minutes, conduire à la prière chrétienne. Eh bien, vous demander et écrire, prier. Quels sont les mots, les verbes, les images? À quoi cela me fait penser? Prier. Une espèce de, vous savez, on dit quelquefois tempête de cerveau. Vous écrivez tout ce qui vous vient, à quoi cela me fait-il penser? Peut-être aussi, y a-t-il l'une ou l'autre question que je porte? Et chacun, chacune l'écrit. Nous n'allons pas mettre en commun, mais nous reprendrons cette petite feuille en fin de matinée. Gardez-la précieusement. Dans cette attitude de disponibilité intérieure, je peux plus facilement entrer en moi-même et laisser remonter à la mémoire quelques moments de ces semaines passées. Vacances de détente, de rythmes différents, de repos. Au fond, qu'est-ce qui m'a donné du goût? Qu'est-ce qui a eu de la saveur pour moi? Qui a peut-être éveillé de l'élan, du dynamisme? J'en fais mémoire. Je laisse remonter des situations, des visages, des petits événements. Nous allons entendre un récit d'évangile, une rencontre de Jésus. Et nous y disposons.
Jésus marche vers Jérusalem.
Marche vers Jérusalem.
Il traverse la Galilée et la Samarie.
Il entre dans un village.
1,
2, 3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10.
10 lépreux viennent à sa rencontre.
Viennent à sa rencontre.
Jésus,
Maître, prends pitié de nous.
Jésus, Maître, prends pitié de nous.
Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre.
Allez vous montrer au prêtre.
En cours de route.
En cours de route.
Ils sont purifiés.
Purifiés. Guéris.
L'un d'eux,
un seul,
voyant qu'il était guéri, revient sur ses pas,
en criant gloire à Dieu.
Gloire à Dieu.
Béni soit Dieu.
Hosanna.
Gloire à Dieu.
Il se jette la face contre terre.
Aux pieds de Jésus.
Aux pieds de Jésus.
En lui rendant grâce.
Or.
Or, c'est un Samaritain.
Un Samaritain.
Jésus demande:
est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés?
Et les 9 autres, où sont-ils?
Où sont-ils ?
On ne les a pas vus pour rendre gloire à Dieu.
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 Il n'y a que cet étranger ?
Un Samaritain.
Un étranger.
Jésus lui dit : Relève-toi.
Va.
Ta foi t'a sauvé. Va.
Va.
Va. Va. Ta foi t'a sauvé.
Jésus monte à Jérusalem. Et en chemin, il reste disponible aux événements qui surviennent. Dix lépreux. Sentir cette disponibilité de Jésus. Il est toujours à l'heure des imprévus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils se présentent tels qu'ils sont, dans leur manque et leur pauvreté. Remarquons, aucun geste, aucune parole de guérison de la part de Jésus, mais seulement une invitation. Allez vous montrer au prêtre. Une parole qui ouvre donc pour eux un chemin de foi, très dépouillé. Allez, sans aucune autre garantie ni certitude. C'est une parole qui les met en relation avec d'autres que lui. Et les 10 lépreux s'y risquent. Ils partent. En chemin, ils furent purifiés. Restaurés dans tout leur être, rétablis dans l'alliance avec Dieu. La lèpre rendait impur. Leur acte de foi est fécond. Simplement les regarder quelques instants. L'un d'eux, et c'est un étranger, perçoit dans ce qu'il vit dans son corps, reconnaît la présence de Dieu. Il revient vers Jésus. Il rend gloire à Dieu et, se jetant aux pieds de Jésus, il lui rend grâce. rendre grâce. C'est le terme qui désigne l'Eucharistie. Goûtez la démarche de cet homme. Elle nous instruit. Elle nous éduque. Lui seul entre dans une relation de réciprocité avec Jésus. Il prend le temps d'une relation nouvelle avec lui. En écho à sa démarche, Jésus s'efface de nouveau, devant le mystère de Dieu. Il ne lui dit pas, il ne s'est trouvé personne pour venir me remercier. Il dit à ce Samaritain, il ne s'est trouvé personne pour revenir rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. Effacement de Jésus qui rapporte tout ce qu'il vit et fait à son Père. Et Jésus termine en disant au Samaritain, relève-toi, va. Non pas « relève-toi et suis-moi ». Non, « va ». Il n'en fait pas son disciple, comme pour d'autres qu'il appellera très personnellement à le suivre. Cet homme, il le renvoie à sa vie, car il peut maintenant l'habiter de manière nouvelle. Et il ira son chemin, homme du royaume, rétabli dans l'alliance. Sentir ce décentrement du Christ et sa manière d'être. Il rapporte tout au Père. Il ne retient rien, ni personne, pour lui-même. Il est contagieux de vie, simplement. Nous allons réentendre la proclamation de ce récit, et nous prendrons quelques minutes pour prier, parler chacun, chacune au Seigneur, très simplement.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit, « allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu.
Nous allons prendre quelques minutes pour relire ce que nous venons de vivre, à la fois très personnellement et tous ensemble dans cette grande assemblée. Par petits 6-6, 4-4, sans faire trop de déménagement, deux petites questions. La première, comment ai-je vécu ce moment depuis la préparation? Paisible, troublée, heureuse, j'y étais pas ou j'y étais. Comment ai-je vécu ce moment? Et c'est une réponse personnelle. Et puis, nous redire, par quelles étapes sommes-nous passés depuis qu'Hélène nous a introduits à la prière? Nous prenons le temps, donc, par 3, 4, 5, de partager.
Et je donne maintenant à nouveau la parole à Odile.
Alors, nous allons donc ensemble réfléchir ce matin sur la manière de conduire aujourd'hui, dans les perspectives pastorales qui sont les nôtres, de conduire à la prière chrétienne. Et je partirai d'abord de cette expérience d'intériorité. Nous venons d'en vivre une et nous allons réfléchir à partir de là. Hein ? L'intériorité. Revenons un peu à ce récit de la rencontre des 10 lépreux avec Jésus. Quelle est la différence, au fond, entre ce lépreux samaritain et les 9 autres? Tous viennent vers Jésus, lui demandent quelque chose. Jésus n'accède pas directement à leur demande, hein, il les envoie. Et c'est en chemin qu'il constate. Et puis, un seul revient. Tous ont été guéris. Tous, finalement, ont reçu réponse à leurs besoins. Et j'ai envie de dire, accrochez bien ce mot, besoin. Ils avaient un manque. Et ce manque a été comblé. Un seul, à partir de sa guérison, va entrer dans une relation plus profonde avec Jésus, une relation de réciprocité, de personne à personne, une relation qu'on pourrait appeler une relation de désir. Et accrochez bien ce mot aussi, besoin, désir, un seul, sur 10.
Cela va nous aider à réfléchir au niveau d'abord humain, un peu à ces deux types de relations qui sont toujours un peu imbriquées l'une dans l'autre et que nous vivons tous, toutes. Qu'est-ce que ça va vouloir dire d'éduquer à l'intériorité un enfant et un jeune, quand on est surtout du côté du besoin et de la relation de besoin? Ceux et celles parmi nous qui travaillent plus particulièrement avec des enfants, des jeunes enfants, même aussi déjà encore parfois avec des adolescents, sentent ça de l'intérieur. Ils vivent surtout cette relation de besoin que je vais qualifier ainsi, c'est la relation de tout enfant qui vient au monde. Quand il boit le lait de sa mère ou le biberon, il boit sa mère. Voilà. Et il ne fait pas de différence entre le lait qu'il boit et sa mère qui le lui donne. C'est tout un. Dans la fusion, hein, on peut dire aussi la confusion. Voilà. Il boit sa mère. Et vous êtes bien nombreuses à avoir fait cette expérience. Mais ça nous donne de réfléchir sur, au fond, la relation de besoin, c'est une relation qui veut assimiler l'autre à soi. Prendre pour soi, réduire à soi et à l'attente, au fond, que je projette sur lui. Dans notre vie d'adulte, on a des expressions qui nous disent que nous sommes encore parfois un peu dans cette manière d'être entre nous sous la forme du besoin. Quand on dit à quelqu'un ou quand on entend des jeunes se dire « Mais tu me pompes l'air !» Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Voilà. Quel pot de colle, voilà. Tu m'étouffes. Ou bien deux amoureux, mais il la boit des yeux. Vous sentez ce qu'il y a derrière. Une relation sans distance, hein? Sans distance, un peu fusionnel, qui peut durer encore quand nous sommes adultes, mais qui fait que nous n'arrivons pas vraiment à nous habiter nous-mêmes dans une autonomie. Voilà. Chez les jeunes aujourd'hui, vous savez, les modes vestimentaire, le fait d'avoir les mêmes chaussures que son voisin, surtout, hein, ou bien le même pull ou je ne sais pas quoi, vous les mamans vous savez bien mieux que moi, hein, ou bien d'avoir le portable surtout, ou l'appareil électronique que tout le monde a. Il y a quelque chose qui reste un peu superficiel et qui ne permet pas au jeune ou à l'adulte, s'il reste dans cette relation de besoin, de s'habiter lui-même en vérité. Voilà. On reste à la surface de soi. Et c'est un peu ce qui se passe pour ces 9 lépreux guéris. Ils sont guéris. Ils s'en vont, ça leur suffit. Ils ne créent pas une relation plus profonde avec Jésus. Il n'est plus question d'eux. Attention, repérons cela qui est très important. Dieu, par Jésus, a bien pris en compte leurs besoins. Ils sont guéris. Et ils le resteront.
même s'ils ne vont pas plus loin dans leur relation avec lui. À ce moment-là, à ce stade de développement, qu'est-ce que ça veut dire éduquer à l'intériorité? Eh bien, c'est d'abord de répondre avec beaucoup de soin aux besoins physiques et affectifs de l'enfant et du jeune, comme Jésus a entendu le besoin de ces lépreux. Entendre ses besoins. Et quand la maman ou les éducateurs de toute espèce font entendre ses besoins et y répondent avec amour, avec délicatesse, l'enfant intériorise en lui une sécurité pour vivre, un goût de vivre. Le sentiment qu'il fait bon exister et qu'on n'est pas tout le temps dans l'angoisse. Et c'est très important. Trouver bon d'exister, parce que quelqu'un de plus grand que moi, de plus adulte, répond aux attentes fondamentales qui sont les miennes. Et alors on va goûter du plaisir à vivre. C'est le fondement de l'intériorité de l'enfant. Il importe là de leur permettre d'éprouver les émotions qui sont les leurs et surtout de les exprimer, d'apprendre à les formuler, comme on apprend à formuler des sentiments. Tu as été heureux de ce moment-là? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ou tu as été triste quand il a dit ça? Oui. Apprendre à formuler ses sentiments. Ça, c'est commencer d'éduquer à l'intériorité. C'est-à-dire d'éduquer au moi intérieur qui vit, qui ressent, qui éprouve et qui est unique. Quelque chose qui a attristé un jeune pourra avoir laissé indifférent un autre. Mais c'est capital qu'ils puissent se le dire à eux-mêmes en le disant à quelqu'un qui le leur demande. Vous voyez, chemin d'intériorité. Cela apprend aux enfants et aux jeunes à devenir davantage réceptifs. Voilà. C'est ça un fruit. Parce que on peut se rendre conscient de ce que l'on vit. Je suis triste, je suis joyeux, je suis paisible, j'ai envie de, j'ai du goût à. Voilà. Et je peux le dire. Et je grandis à travers ça. Dans la relation à Dieu, le besoin peut aussi fonctionner. Par exemple, quand on demande à Dieu de répondre à nos attentes, que je réussisse cet examen, que je sois guéri de cette maladie, ou que je lui demande la fin d'une épreuve, je lui demande de combler le manque qui m'habite. Vous voyez ? Il vient, je lui demande de venir remplir ce manque. Et nous allons voir que nous sommes invités à aller au-delà et plus loin. Mais nous sommes aussi parfois habités par cela. Ou bien, nous vivons aussi un peu dans une relation de besoin avec Dieu, quand quelquefois, vous savez, j'ouvre la Bible, je tombe sur un verset et je dis, ah voilà, ça c'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Paf. Comme si, en direct, téléphone direct, il avait parlé. Ça va être à évangéliser davantage. Ou bien encore, relation de besoin avec Dieu, parfois, quand j'impose ma propre image de Dieu, sans penser que d'autres peuvent en avoir une autre, différente de la mienne. Voilà. Et nous savons aujourd'hui que le risque est parfois là. Alors, ce qu'il y a de fort important à retenir de cette première partie, c'est que Dieu, ceci dit, dans la rencontre des lépreux, a pris en compte le besoin de ces 9 lépreux. C'est aussi la manière de Dieu. Mais il nous invite à aller au-delà. D'où, deuxième partie, croître en intériorité dans l'éducation et à l'âge adulte, c'est d'abord privilégier des relations de désir. Et ça, c'est la figure du Samaritain qui nous aide à comprendre et à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Devenir adulte, et de plus en plus adulte, et on n'en finit pas, même à 70 ans, de devenir adulte. Voilà, c'est vrai. C'est aller vers des relations qui sont surtout connotées par le désir. Et cela se fait par un travail intérieur. Un travail, ça va pas de soi, qui s'opère sur la tendance que nous pouvons avoir de mettre la main sur l'autre. Hein? Cette manière un peu d'accaparer l'autre pour soi. Pour se relier à l'autre dans le respect, dans la différence, dans l'acceptation que comme il n'est pas moi, il est différent de moi et il m'échappe. Et on n'en finit pas de grandir dans cette qualité de relation. L'autre nous échappe. Voilà. Je ne peux pas mettre vraiment la main sur lui. Comment, durant l'éducation, cette croissance s'opère. Vous, les parents et les éducateurs, vous le savez bien. Cette croissance et ce passage du besoin au désir s'opèrent par une multitude de petits interdits. Des interdits. Et vous voyez, on peut donner le sens d'interdit, un sens très fort, c'est ce qui est dit entre. Interdit. Dit. Ce qui est dit entre deux personnes pour éviter la fusion entre elles. Voilà. Au tout petit, le tout petit qui vient de naître, c'est quand le père est là et que la maman qui portait son enfant dans ses bras arrête de s'occuper de lui pour parler à son mari qui rentre. C'est une manière tout à fait simple de dire « Tu ne peux pas prendre ta mère pour toi tout seul. Elle est aussi ma femme. » Et c'est le papa qui dit ça. Et dans toute l'éducation, il y a une multitude de petits interdits qui sont capitaux pour que l'enfant puisse grandir dans une forme de relation qui va respecter l'autre. Tu ne peux pas frapper ta sœur. tu ne peux pas prendre les jouets de ton frère. Voilà. Ça, ce sont les interdits qui font grandir. Et qui, petit à petit, permettent à l'enfant, puis à l'adolescent, de respecter l'autre comme autre. Et du coup, d'entrer avec ses parents, ses frères et sœurs, les copains de classe, dans des relations, attention, où l'on est capable de porter des frustrations. Voilà. L'autre ne correspond jamais tout à fait à ce que je voudrais qu'il soit pour moi. Et cela me fait porter des frustrations. Voilà. Et de même, je ne correspond jamais tout à fait à ce que l'autre voudrait que je sois pour lui. Et je dois porter la frustration de déplaire. Nous sentons comme c'est important pour vivre des relations humanisantes, voilà, qui permettent à ce moment-là de se rendre service, de se découvrir, de se respecter, et des relations de réciprocité. Vous savez, quand un enfant grandit et que quelquefois on sent il va aider à mettre la table, il va aider à ranger sa chambre, il va aller chercher le pain tout seul, il va se passer des choses qu'il ne pouvait pas faire avant et qui disent une croissance humaine fantastique dont nous adultes on ne prend pas toujours la mesure, mais qui est vraiment de passer du besoin où je veux tout de suite pour moi, maintenant, au désir où je respecte l'autre dans ce qu'il est. Et ce qui a commencé de se mettre en place à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, on n'en finit pas de le mettre en place. Ces relations de désir, elles se creusent et elles se développent aussi par des moments de silence et de solitude. Et là, nous pouvons faire une différence entre la solitude et l'isolement. L'isolement replie sur soi. On s'isole dans une tour d'ivoire ou dans son petit monde. La solitude, c'est ce qui permet à quelqu'un de naître à lui-même. Voilà. Des moments de solitude et de silence où je peux laisser reposer ce que je vis. Il y a eu ça, j'ai rencontré telle personne, il y a eu tel événement, et je les laisse reposer. Tout à l'heure, Hélène nous a fait entrer dans ce moment de solitude intérieure qui a conduit à l'intériorité, voyez, où nous étions seuls avec nous-mêmes, d'abord à écouter notre respiration, mais aussi à rentrer en nous-mêmes. Il n'y a pas de croissance en intériorité sans ce consentement à des moments de solitude et de silence intérieur. Pour laisser résonner en soi les relations que nous vivons et pour les relire et pour les apprécier, et pour les peser, sentir ce qui a du poids, ce qui a de la valeur, ce qui construit du dedans, ce qui fait du bien, et puis sentir ce qui est plus futile et superficiel. ça se fait dans ces moments de solitude. Alors, pour éduquer à ce travail d'intériorisation, particulièrement au moment de l'adolescence, deux choses importantes qui découlent de ce que je viens de dire. De même que dans la première éducation, la place des interdits a été très importante, eh bien, au moment de l'adolescence, il convient de rappeler aux jeunes les grands interdits qui structurent notre vie entre hommes et entre hommes et femmes. Les grands interdits de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir. Ces commandements, voilà, de la loi qui balisent le chemin d'humanité. Si nous menons notre vie sans les respecter, nous le voyons bien, c'est devenir inhumain et tomber dans l'anarchie. Et il importe, c'est vraiment dans l'éducation, mais aussi dans tout ce travail d'évangélisation et de catéchèse, de rappeler ces commandements et de permettre aux jeunes de les intérioriser comme des devoirs qui leur donnent des droits. Voilà. Chacun a des droits et des devoirs. Voilà. Le droit au travail, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la liberté religieuse. Voilà. Donner de découvrir aux jeunes qu'ils ont ces droits, mais que cela implique aussi pour eux des devoirs. Et les devoirs, ça passe par le respect de ces grands interdits. C'est d'autant plus important, nous le savons bien tous, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, nous nous le disons quelquefois, l'enfant est roi. Hein ? Et il y a quelquefois comme un déficit d'une présence adulte qui rappelle les balises de la vie en société. Parce qu'il n'y a pas de parents, parce qu'il y a des parents trop loin, parce qu'il y a des difficultés familiales. Alors, il y a comme ce déficit qui ne permet pas aux jeunes de grandir et de s'habiter eux-mêmes. Voilà. Donc, rappeler ses droits, ses devoirs. Il y a des jeux qui les rappellent. Et c'est capital de vivre avec eux ces jeux, parce que tout jeu a une règle du jeu, et donc met des devoirs et des droits. Voilà. D'où l'importance de jouer, vous voyez ? Parce que le jeu éduque, évidemment. Et en même temps, nous nous le disions nous-mêmes, nous nous le disions à l'instant plutôt, c'est capital d'éduquer les adolescents et les jeunes à ces moments de silence, de solitude, de recueillement, durant lesquels ils vont pouvoir se trouver face à eux-mêmes, en vérité. C'est pas seulement se taire, c'est pas seulement ne pas faire de bruit, mais c'est pour descendre à l'intérieur de soi-même, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Voilà. Et découvrir qu'il y a en soi de l'espace. Un espace intérieur où les choses, où les événements, où les personnes et les rencontres peuvent résonner. Découvrir en soi cet espace intérieur. Cela se fait en leur apprenant à relire, voilà, et en leur donnant la parole sur ce qu'ils ont vécu. Raconte-moi ce que tu as vécu ce week-end. Raconte-moi cette dernière rencontre de catéchèse et ce temps fort. Voilà. Mettre des paroles sur ce qu'ils ont vécu pour le relire et pour pouvoir exprimer non seulement le déroulement, mais comment ils l'ont vécu. C'était heureux, c'était tranquille. Oh, c'était un peu le foutoir. Bon, ça arrive aussi quelquefois. C'était joyeux, on était ensemble. C'est comme ça que peu à peu, chacun prend conscience de sa propre personnalité et des valeurs auxquelles il tient et qu'il désirera garder dans sa vie. De ce point de vue-là, développer l'intériorité, c'est permettre de donner du sens et de trouver le sens. Au fond, dans cette journée, qu'est-ce que tu as trouvé qui avait beaucoup de sens pour toi? Qu'est-ce que tu as aimé et que tu n'aimerais surtout pas oublier? Vous sentez là l'importance du dialogue. Du dialogue où on se donne la parole mutuellement et où on respecte l'autre. Il a le droit de dire comment il a vécu la chose et l'événement, même si ce n'est pas comme cela que je l'ai vécu. Conduire à cette intériorité-là, va dépendre très fort de l'attitude de l'animateur. Voyez ? Si l'animateur lui-même a découvert un espace intérieur, son propre espace intérieur et sa propre intériorité, alors il saura trouver les petits chemins pour conduire l'autre, plus jeune, à découvrir la sienne et à découvrir ce qu'il y a de plus humain en lui. D'où cet exercice modeste, mais tellement important que nous avons fait tout à l'heure. Voyez ? Des petits moyens, nous nous en donnerons d'autres. Nous l'avons vu, parce que nous l'avons vécu, cette éducation à l'intériorité, elle peut se vivre à différents niveaux et sous différentes formes. Et là, le corps est important. Tout à l'heure, nous avons pris le temps d'être bien dans notre corps, bien assis, à respirer, à poser ses mains. Voilà. Le corps. Pour des jeunes, quelquefois, faire ces petits exercices, c'est magnifique, hein, et ça porte son fruit. Mais aussi, nous le savons, l'expérience d'une marche, voilà, où on se dépense dans son corps, et faire l'expérience d'être fatigué, de porter un sac, de trouver qu'on a soif, de sentir que la route est un peu longue. Ah, ça fait découvrir des tas de choses en soi. L'expérience d'un pèlerinage, d'aller vers un but, et on converge de différents lieux, et on pourra se partager en arrivant ce que chacun a vécu dans les différents chemins. Nous parlions tout à l'heure des jeux avec les règles. On pourrait aussi citer ces moments de pause bienfaisante. Il y a eu un moment d'intense activité, de jeu, dont on s'est bien dépensé. Et puis on va se retrouver et on va commencer par un moment de pause bienfaisante. Silence, solitude, retour en soi-même. Voilà. Ou bien prendre le temps d'écouter un morceau de musique et d'exprimer, tiens, comment on l'a ressenti. Ouh, il y avait des moments violents. Au contraire, il y avait des moments, c'était comme une rivière qui coule. C'était doux. Voilà. Et toujours, donner la parole pour permettre de relire ce qui a été vécu. Éduquer à l'intériorité. Dans notre relation à Dieu, nous avons aussi besoin de nous laisser éduquer à cette relation de désir. Voilà. Parce que, bien sûr, nous faisons l'expérience que Dieu est autre que nous et que nous avons beau quelquefois lui demander telle réussite ou telle chose auquel nous tenons tant, nous ne pouvons pas l'acquérir par nous-mêmes. Et quelquefois, le Seigneur lui-même éduque notre patience. Découvrir, c'est capital, découvrir que Dieu est différent et que je ne peux pas mettre la main sur lui. Il est celui qui donne, mais il donne à son heure, à son rythme. Nous pouvons tous et toutes relire des expériences où le Seigneur nous a donné de la paix, de la joie, du goût. Mais nous n'étions pas maîtres du moment où c'est venu. Voilà. Dieu est autre. Et découvrir cela, c'est entrer de plus en plus avec lui dans des relations de désir où je le respecte différent de moi. Et j'essaye de me laisser accorder à sa manière à lui, à son rythme à lui. Et nous verrons cela en regardant particulièrement comment le Christ, dans l'Évangile, nous permet de découvrir Dieu et de nous laisser accorder à Dieu. Peut-être nous allons, vous voyez déjà deux petites parties, hein, découvrir ce que c'est que ces relations de besoin, savoir qu'elles existent et qu'on peut vraiment, que Dieu passe par là, sentir que nous sommes conduits plus loin, à quelque chose de plus respectueux et plus réciproque. Et puis, nous allons, d'ici un petit moment, regarder la manière dont le Christ lui-même a vécu ses relations.